Bonsoir, il est 19h, nous sommes le lundi 31 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris et dans la Douvre aussi, c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce numéro spécial de La Relève, car il n'est pas programmé à 14h comme d'habitude et surtout parce que nous ne recevons pas un mais quatre invités. À l'heure, à une heure de l'allocution d'Emmanuel Macron, que je le sais vous attendez tous, il fallait bien ce quatuor magique de ce soir, réuni pour la première fois à Paris et dans le monde pour tenir le coup. Manon Fleury, bonsoir, merci d'être venue dans notre studio. Vous êtes chef, cuisinière, restauratrice, sommermose, on dit comment s'il vous plaît ?
On dit cuisinière.
D'accord, merci d'être venue et de faire la cuisinière. Jean-Baptiste de Fromont, vous êtes agrégé de philosophie, ça m'impressionne toujours aux fonctionnaires, mais aussi élu à la mairie de Paris. Mais ce n'est pas pour ça que nous vous recevons ce soir, vous publierez dans quelques jours votre premier roman qui s'appelle « État de nature » aux éditions Les Forges de Vulcain.
Oui.
C'est impressionnant l'agrégation de philosophie.
Ça dépend pour qui.
Bastien Fidelin, vous êtes, on revient avec vous aux nourritures terrestres, vous êtes sommelier et vous n'exercez pas très loin de la radio puisque vous êtes au Saint-Sébastien.
Exactement, rue Saint-Sébastien, juste et à côté.
Quant à notre quatrième membre de ce quatuor d'un soir, donc je ne sais pas comment l'appeler, s'il s'appelle Jaune ou Jean.
Écoutez, appelez-moi comme il vous plaira.
Voilà, je l'appellerai Jean, si je me souviens. Jean Thévenin, vous êtes chanteur et le 18 janvier sortira votre premier EP. Là aussi, c'est comme je veux.
EP, oui, on peut dire.
Qui s'appelle La Promesse. Pour vous, pour commencer les uns les autres, le 31 décembre, pour vous, c'est un mauvais moment, quelque chose que vous aimez? Vous avez des bons souvenirs de 31 décembre? Eh bien, voilà ma question. Est un super vent.
Je prends la parole.
Personne n'aime le 31 décembre.
On a tous passé des soirées de merde. Non, moi personnellement, j'ai souvent travaillé le 31. C'était des soirées plutôt sympas au restaurant. Et les peu de 31 où du coup j'ai pu faire la fête, en général ça n'a jamais été des soirées ultra réussies. Mais bon.
Non, pour moi il y a eu souvent beaucoup trop d'attentes qui ensuite a été déçue. Donc maintenant je n'attends plus rien et j'espère résultat que ça va mieux se passer.
C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas en attendre grand chose en fait. Il faut s'attendre à passer une mauvaise soirée et parfois on peut être agréablement surpris.
Donc Manon et Bastien, pour vous c'est spécial puisque comme vous venez de le dire, en général vous travaillez ce soir?
Ouais, exactement, ce soir je travaille.
On va quand même dire la vérité parce qu'on enregistre, donc vous travaillerez le 31 décembre.
Le 31 décembre du coup.
Moi je ne travaille pas.
Ah, il n'y a pas de restaurant le 31?
Je vais peut-être aller manger chez Bastien.
Ah, on est complet, voilà. Mademoiselle.
Dans ces cas-là, c'est difficile de travailler quand tout le monde autour s'amuse, est-ce que...
Non, pas forcément. C'est les premiers, ouais, mais maintenant on s'y fait. On s'y fait, et puis en fait, bah voilà, il y a des amis, il y a même la famille qui vient manger, donc en final, on s'amuse aussi. Il faut rester pro, mais on s'amuse.
Vous, Manon ?
Ouais, moi, c'est une soirée comme les autres, mais dans la restauration, on a tellement l'habitude de travailler quand les autres ne travaillent pas que finalement...
Il n'y a pas une petite pression en plus parce qu'il faut réussir cette soirée-là, les gens en attendent plus justement. Parce qu'on était...
C'est quand même trois fois plus cher en plus. Donc
ouais, je l'ai fait qu'une fois moi en fait et il y avait un côté hyper festif dans le restaurant où je travaillais à ce moment-là et j'avais trouvé ça assez sympa et de la pression, non, on en a tous les jours, non, franchement non. Et puis que les gens paient plus cher, c'est pas plus mal.
Alors on va penser à nos auditeurs qui sont avec nous et qui dans une heure, parce qu'ils vont attendre avant d'aller faire leur dernière course, ils ont oublié. Vous maintenant, quelqu'un qui n'aurait rien là et qui doit faire une soirée, qu'est-ce qu'il faut qu'il aille chercher? Qu'est-ce que vous lui conseillez d'aller acheter pour faire un bon 31?
Ouais, il faut faire simple, tout dépend de combien on est aussi. Hein. Mais moi j'ai un amour pour les pâtes. Donc,
on peut faire des pâtes le 31 décembre.
On a le droit de faire des pâtes le 31 décembre. Il ne faut pas se mettre trop la pression.
Alors à la truffe.
Alors la truffe, pourquoi pas. Et moi, j'avais pensé plutôt à une petite poutargue. Une petite poutargue qui se garde bien au frigo. Je ne sais pas si vous connaissez la poutargue.
C'est des œufs de poisson, non?
C'est ouais, ça, ouais. Des œufs de poisson séchés, d'origine souvent italienne.
Mulet en général, non?
Mulet, ouais. Exactement.
Le mulet est un poisson, donc?
Ouais.
Le mulet est un poisson, ce qu'on appelle souvent un poisson gras. Un peu l'appellation qu'on donne générale pour les gens qui ne font pas forcément de la cuisine. Qui vient souvent des pays... ça se fait beaucoup en Italie. Donc c'est pour ça qu'on associe les pâtes à la poutargue à l'Italie.
Donc on cuisine ça comment? Avec de la tomate
tout simple, non.
Moi, je, Thomas, le 31 décembre, il faut éviter.
Si on a des bonnes bois, si on, on a des bons coulis, oui, de tomates qu'on a gardés d'été, pourquoi pas. Non, moi, j'aurais vu quelque chose de beaucoup plus simple encore. Moi, j'adore les pâtes au citron. Mm-hmm. Donc, avec un jus de citron et une chapelure, ce qui se fait beaucoup en Italie. Moi, c'est les meilleures pâtes que j'ai mangées en Italie de ma vie à Rome. C'est des linguine qui se cuisinent vraiment naturellement avec du jus de citron et une super chapelure.
Donc, on revient tous les quatre chez vous après.
Et revient, vous venez tous les quatre.
Goûtez vos pâtes au citron, à la chapelure.
Pâtes au citron et là, donc, la poutargue qu'on vient râper dessus. En fait, ça se râpe très finement, la poutargue. Et ça, c'est vraiment le dernier geste. C'est un peu comme la truffe, hein, finalement. Hein. C'est un peu la truffe.
Le jus de citron, il est tout simplement versé dessus ou c'est une préparation, c'est cuisiné.
Le petit truc donc dans cette préparation de pâtes, c'est qu'en fait, on va servir de l'eau de cuisson des pâtes, ce qui se fait beaucoup en Italie pour faire une liaison, mais pas comme en France où on lit les pâtes avec de la crème. Et mon Dieu, arrêtez de faire ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se servir de l'eau de cuisson des pâtes et de faire une liaison avec cette eau de cuisson que vous avez gardée au fond de votre casserole. En ajoutant un peu de citron, on peut aussi ajouter du zeste. Si on a une petite râpe, on va ajouter un peu de zeste à la fin. Et un peu d'huile d'olive.
Et après ça, on a fini de manger.
Après ça, on dessert.
Dessert.
Moi, j'adore les agrumes.
Petite salade de fruits.
Petite salade de fruits, pourquoi pas. Ouais, petite salade de fruits. Ou même, si on a un petit peu de temps... un peu de sucre dans le placard, on se fait confire quelques rondelles de clémentine dans un petit sirop. Il doit bien nous rester un yaourt au fond du frigo aussi.
J'espère.
Un peu de yaourt, une clémentine confite dans un sirop, une petite crème de marron qui traîne.
Clémentine et crème de marron ?
Ah ouais, super.
Là, on commence à être bien là, hein, je trouve.
Alors on va demander, on va pas Bastien, non c'est pas Bastien, il s'appelle Bastien. Ça, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça alors ?
Du coup pareil, si on n'a pas grand chose avec modération toujours.
Je vais répéter plusieurs fois.
Si on n'a pas grand chose dans les frigos ou dans la cave, si on a la chance d'avoir une cave, on peut descendre en bas chez un caviste et quand même essayer d'éviter la grande surface. Pousser la porte du caviste, ils sont pas tous méchants et ils sont parfois de bons conseils. Et le 31, ils sont ouverts jusqu'à tard, donc n'hésitez pas.
Donc, ils peuvent écouter l'émission jusqu'à la fin.
Exactement. Si on suit la super recette des pâtes à la poutargue, faut pas oublier que c'est assez salé, donc faut pas ramener énormément d'acidité non plus pour pas que ce soit trop gastrique. Mais on peut ramener un peu de tranchant, un petit peu de gras aussi pour jouer sur la texture des pâtes. Il y a des super choses qui se font dans des régions comme la Loire où il y a un grand cépage qui s'appelle le chenin. On peut tout faire avec le chenin, des grandes bulles, des grands secs et des grands pétillants. Là, on peut plutôt utiliser les secs, chercher des choses avec un peu de volume, des choses un petit peu denses, avec un peu de sucrosité. Mais voilà, il y a toujours un bel éclat sur des tonalités assez citronné sur ce cépage, donc qui peut encore faire le lien avec
le 31 décembre. On commence avec du champagne, on est d'accord,
et champagne ou autre, parce qu'il y a des bulles magnifiques qui se font ailleurs. Je parlais de la Loire, mais il y a l'Alsace où il y a l'appellation crémant d'Alsace qui autorise des cépages.
Ça, c'est
comme
bon, parce que moi j'ai toujours l'impression que c'est du champagne pas cher.
Ouais, non, alors en fait on a souvent eu tendance à associer que hormis les champagnes, les bulles en France c'était pas terrible, mais il y a vraiment des super choses. Là aussi, éviter les grandes surfaces parce qu'ils ont tendance à proposer des prosecco à bas prix et des choses comme ça.
Et c'est pas bon, compliqué.
C'est pas très bon pour gustativement, c'est pas hyper intéressant.
C'est, en fait, c'est bon pour être mélangé avec d'autres trucs pour faire le cocktail.
Ouais, on peut plutôt, ouais, on peut faire ça. Et puis même pour votre santé, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en général. Voilà. Mais il y a des super bulles naturelles qui se font ailleurs. Je parlais de l'Alsace, il y a aussi la Savoie. Si on aime les bulles un peu plus sucrées, il y a une appellation donc Bugey qui est le plus petit vignoble de France, qui fait 220 hectares, qui est au-dessus de la Savoie, pas très loin de Lyon. Il y a l'appellation Bugey Cerdon. C'est des rosés pétillants naturels. Fait à base de gamay entre autres, qui est le petit cépage du Beaujolais. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est sucré, mais c'est pas exubérant, c'est pas écœurant en sucre. Du coup, autant pour commencer, pour se mettre en appétit que pour finir, ça peut être joli. Mais voilà, autre chose que le champagne, c'est possible et avec un meilleur rapport qualité-prix.
Alors, on a le menu, on a les boissons, maintenant on peut faire connaissance.
C'est ça.
Manon Fleury, vous êtes chef au Mermoz. Comment vous êtes arrivé à ce poste ? Vous êtes très jeune ?
Moi, je suis très jeune, non, je ne suis pas très jeune.
Vous êtes jeune, enfin, vous êtes plus jeune que moi.
Je suis arrivée à ce poste il y a à peu près un an maintenant. Ça fait un an que j'ai fait l'ouverture du Mermoz. Je n'avais pas été chef avant. C'était une grande première, donc première ouverture, première place de chef.
On est venu vous chercher, c'est vous qui avez répondu ?
On est venu me chercher, ouais. On est venu me chercher, le propriétaire du Mermoz.
Non, le Mermoz, de ce que j'ai lu, j'y suis jamais allé, mais je le ferai bientôt maintenant. Je sais qu'on peut manger des bonnes pâtes. Il a voulu faire un bar qui est dans son jus, si j'ai bien compris. C'est pas le bar bobo un peu parisien tel qu'on le connaît. Il a gardé l'ancienne forme.
Exactement, c'est-à-dire que c'est un endroit qui avait à peu près 50 ans, qui était tenu par Françoise depuis 30 ans. Françoise était la maîtresse des lieux.
On imagine déjà rien que le nom.
Derrière son zinc, qui vient toujours d'ailleurs nous rendre visite souvent parce qu'on a essayé de rester fidèle au lieu. Et puis, et de ne pas dénaturer, c'était la promesse qu'on lui avait faite en reprenant lieu.
Mais vous êtes arrivé avec...
Je suis arrivée un mois et demi avant l'ouverture du Mermoz. Donc tout était déjà fait. Hein. Je suis arrivée, j'ai juste aidé à tout mettre en place, à installer la cuisine, etc.
Ça se trouve où le Mermoz ? Je pose une question comme ça.
C'est dans le 8e. C'est
Jean Mermoz.
Voilà, à côté des Champs-Élysées.
Il y a eu beaucoup de gilets jaunes qui sont venus déjeuner chez vous.
On a eu la chance d'être fermé le samedi.
Et donc, quand vous arrivez, on vous avait repéré dans là où vous travailliez avant, vous étiez au Sémilla.
Oui.
Et c'est là où on vous a repéré ?
Oui.
Parce que vous faites le même type de cuisine que dans ce restaurant-là. Vous avez été influencé par cette cuisine-là ? Alors qu'une cuisine néo-bistro, celle-là, je la connais.
oui, en quelque sorte, on est toujours influencé par les endroits où on travaille, mais en fait, j'ai été depuis un an et demi sous-chef chez Sémilla. J'avais beaucoup de liberté chez Sémilla, donc je m'exprimais déjà beaucoup. Mais bon, on s'exprime totalement, jamais totalement quand on n'est pas chef, donc j'avais quand même des restrictions et puis des choses. En étant sous-chef là-bas pendant un an et demi, je me suis rendu compte de ce dont j'étais capable, et je me suis rendu compte que j'étais capable de gérer une grosse équipe, parce que chez Sémilla, c'est un assez gros restaurant, on est une dizaine en cuisine, donc
voilà. Et au Mermoz, vous êtes combien ?
Au Mermoz, j'ai 5-6 personnes avec moi en cuisine.
Et ça se passe comme dans les émissions de télé, de télé-réalité, vous criez tout le temps
Bien sûr, jure en permanence.
C'est vrai.
Ouais.
Pourquoi il y a cette image-là ?
Cette image-là, elle existe. C'est un métier de stress, c'est un métier de pression. Mais il faut faire changer les choses. Et puis aussi parce que c'est le show, que les émissions de cuisine, ça fait rêver. L'adrénaline, ça fait rêver. Mais quand on est derrière son poste, ça fait pas rêver dans la vie, les gens qui crient. Il m'arrive de pousser des gueulantes, mais comme tout le monde, j'essaye de travailler là-dessus et sur le stress du métier.
Mais la cuisine, ça fait du bruit aussi, qu'on fait rissoler quelque chose, etc. Mmh. Il faut bien.
Ça, c'est enfin, le musicien. C'est le musicien qui est sensible.
J'imagine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de sons intéressants d'ailleurs dans une cuisine, mais quand on s'exprime, du coup, il faut passer au-dessus de.
Ouais, c'est vrai.
De la friture, de.
Oui, exactement. Surtout que moi, avec ma grosse voix. Non, mais on s'en sort toujours. Et puis, c'est une petite cuisine, la cuisine du Mermoz.
Jean-Baptiste, dans votre roman, on mange très peu, m'a-t-il semblé. Pourquoi ? Et ils n'aiment pas manger dans la Douvre, hein.
Si, on mange quand même, à un moment, du pâté aux pommes de terre.
C'est vrai. C'est la spécialité locale.
C'est délicieux, le pâté aux pommes de terre.
Ça existe vraiment.
On peut en manger le 31 décembre.
Ah oui, mais froid le lendemain. On y aura peut-être après. Mais
attention, sans oignons. C'est-à-dire juste des pommes de terre et de la crème fraîche. Voilà, c'est une sorte de tourte.
C'est mieux d'ailleurs pour la laine si on veut rencontrer.
Absolument, surtout pour le 31. Le 31, il faut être en place. Préparer la suite de la soirée. Donc, non, le pâté aux pommes de terre. Mais effectivement, le personnage en fait, à qui on le propose préfère rentrer à Paris précipitamment plutôt que de goûter cette spécialité locale. Donc on ne voit pas l'acte.
Mais justement, vous avez inventé une région, la Douvre, une région française. Vous êtes amusé aussi à inventer une spécialité. C'est amusant de vous.
Le pâté aux pommes de terre, en fait, c'est pas vraiment inventé parce que ça existe dans le centre de la France, ça existe dans la Creuse, qui a un peu inspiré la Douvre. Il y a effectivement le Berry, oui. L'Allier, etc. Donc le nord de l'Auvergne, enfin nord du Massif central notamment.
La diagonale.
La diagonale du vide, mais du plein dans le ventre quand même.
Et voilà, le 31 décembre, on sort ces vieux disques. Là, c'est de la pop anglaise des années 80. The House Martins, I Smell Winter, un titre de saison.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Et ce soir donc à 19h, car il n'est pas 14h, vous n'avez pas déjà trop bu hier et tout va bien. Nous sommes avec Jean-Baptiste de Fromont, écrivain, Manon Fleury, cuisinière, si vous m'avez dit tout à l'heure.
Cuisinière.
Vous y tenez. Bastien Fidelin, vous êtes sommelier, et Jaune Thévenin, chanteur. Et musicien et batteur.
Ah, mon prénom c'est Jean quand même, ça me gêne du coup qu'on m'appelle comme ça.
J'ai du mal avec les prénoms, Christophe, non?
Complètement, je mélange toujours. Et pour l'instant, je ne me suis pas trompé sur un nom de famille, vous avez de la chance. Maintenant, comment vous définiriez votre cuisine dont on parlait tout à l'heure?
Je dis souvent que c'est une cuisine de marché, parce qu'en fait, j'arriverai pas à faire de la cuisine que je fais sans de bons produits, de saison et de qualité. D'ailleurs, ça me rend folle quand j'ai des produits qui ne correspondent pas à ce que j'attendais. Un mauvais poisson, un poisson qui n'est vraiment pas beau, ça peut me pourrir un service. Ça peut me pourrir un service. Et vous pourrez demander à mon équipe, je suis furieuse quand j'ai des mauvais produits. Et donc, parce que je pense que je fais une cuisine pas très technique, mais qui se base vraiment sur les produits. Donc
vous mettez en valeur les produits, leur goût, leur texture.
C'est le plus important pour moi.
Dans un livre qui vient de publier, Thierry Marx dit que cuisiner, c'est donner de la mémoire à l'éphémère. Ça vous parle?
Oui.
Vous pouvez m'expliquer. Moi, j'adore cette formule. J'adore.
Ouais, balance un peu.
Sinon, on parle de philosophe. Hein.
Mais j'ai un philosophe en face de moi.
Non, mais manger, c'est faire vivre au présent une tradition.
Oui, exactement. Puis aussi... avoir de beaux souvenirs autour de la table. Il y a tellement de choses qui se construisent autour des tables, autour d'un bon repas, que c'est éphémère, mais on garde tellement de bons souvenirs. Je sais pas, personnellement, j'ai tellement de souvenirs autour d'une table, de repas que j'ai fait, de discussions partagées. Super important.
On mange avant de chanter, ou ça, est-ce que ça a un effet? Question très bête.
Je mange plutôt après, mais c'est pas tant le fait de chanter que le fait qu'en général quand on est sur scène, moi j'aime bien danser un peu, j'aime bien un peu m'agiter, et je préfère manger après.
D'accord. Dans l'état de nature, Jean-Baptiste de Fromont, vous narrez les aventures d'un haut fonctionnaire qui se voyait déjà en haut de l'affiche et doit faire face à une révolte populaire limitée. Lui, il a de la chance à une seule région de France suite à la destitution d'une préfète fort populaire. Vous avez des dons de voyance? Ça, c'est une révolte dans les régions, un président, ou fonctionnaire, tout ça, ça...
Eh bien, écoutez, c'est un pur travail d'imagination. Ça a été fait bien avant les événements auxquels vous faites allusion, Gilets jaunes et compagnie. Mais quelquefois, la meilleure manière de prévoir ce qui va se passer, c'est de ne pas essayer de coller à l'actualité, de laisser partir un peu l'imagination, et le réel vous rattrape, quoi.
Vous sentiez justement une cassure entre Paris et le reste de la France? Je sais pas, vous avez peut-être une maison à la campagne, des...
Oui, c'est ça.
Non, je sais pas, je demande, j'en sais rien du tout.
Non, mais effectivement, je suis à la fois parisien, et puis je connais bien le milieu de la politique, de la haute fonction publique, de l'espèce d'aristocratie d'État, et en même temps, comme beaucoup de gens, je crois que j'ai des attaches... dans la campagne assez profonde, hein, et puis effectivement plutôt la France du centre, là où on fait du pâté aux pommes de terre.
Le fameux,
la France non balnéaire, quoi, la France où personne n'a envie d'aller, d'où tout le monde part depuis déjà des années. Je pense que ces deux dimensions de moi m'ont donné envie de confronter les deux univers, quoi. Et effectivement... le fruit était mûr par ailleurs, donc
en lisant votre livre et en préparant l'émission, ça tombe très bien que on est autour de cette table une cuisinière. Je pensais au livre de Paul-Henri Bison qui s'appelle La Louvre et qui montre que vous avez lu, ouais. Et qui montre très bien qu'aujourd'hui finalement un des rares derniers rapports qui entre Paris et le reste de la France, et en tout cas de cette partie-là, c'est la nourriture. C'est la nourriture bio, c'est la nourriture qu'on fait venir à Paris pour servir aux citadins. C'est comme ça que vous voyez que
Ouais, c'est vrai, c'est fou, et je constatais encore ça cet été aussi en allant passer les vacances en Normandie. C'est fou parce qu'il y a des produits qui sont splendides, ouais. Quand on fait les marchés et on croise des gens qui sont vraiment authentiques, qui ont l'air d'avoir complètement l'amour des produits et tout. Et en fait, à Paris, on est assez déconnecté de tout ça,
Et on aimerait vivre à Paris et avoir accès à tous ces bons produits. Et en fait, dès qu'on sort de Paris, c'est comme ça, la France. Et c'est d'une richesse incroyable. Quand on commence à faire les marchés en province et à la campagne, c'est fou, quoi.
Oui, mais c'est vrai que... Bon, devenir le fournisseur de la table des grands Parisiens, ce n'est pas forcément l'avenir rêvé de toute une partie de cette population. Et puis, effectivement, moi, les régions auxquelles je pensais en écrivant ce livre sont des régions qui sont pauvres, y compris sur le plan agricole, quoi. Ils font de la bonne viande, mais la terre est mauvaise, il n'y a pas de vin.
Il y a des granges, mais on y fait des drôles de choses dans vos granges, hein, dans ce roman.
Voilà, mais enfin, bon, dès qu'il y a du foin, effectivement, ça donne un peu d'imagination. Donc, bon.
Justement, vous lisant, je me suis demandé quels étaient vos auteurs préférés, parce que votre livre a un ton très singulier. Moi, j'appellerais ça une fantaisie politique. Je ne sais pas si vous acceptez cette définition.
Oui.
On pense autant à... Pardon, je vous ai coupé la parole. On pense autant à Marcel Aimé, à Hergé pour le style, parce que je trouve que vous avez une ligne claire dans votre style qui est vraiment remarquable. Et on pense aussi peut-être à Voltaire au conte philosophique avec ce titre « État de nature ».
Ouais, bah, alors mes influences. Alors, Marcel Aimé, j'ai lu qu'il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus trop, mais peut-être que ça a infusé.
Ah, c'est dans le côté campagnard.
Mais après, il y a un peu la littérature classique. Balzac, Stendhal sont un peu en arrière-fond, mais c'est aussi pour. De façon un peu citationnelle, quoi, pour s'inscrire dans cette espèce de tradition du roman du 19e, même si je ne reprends pas exactement ça. Après, ça me plaît tout à fait, là, la ligne claire, Hergé et tout, parce qu'il y a vraiment un côté BD, hein, ouais. Dessiné, avec des personnages qui sont dessinés de façon très un peu archétypique.
Oui, puis des aventures avec des rebondissements.
Voilà, avec des aventures, des rebondissements. Enfin, et puis il y a un peu des plans, donc on sait que c'est comme si on avait des bulles. Enfin,
les chapitres assez courts ressemblent à des planches, ouais, effectivement.
Voilà, un peu comme des planches. Donc oui, il y a un peu ça. Et puis Voltaire, oui, sans doute. Oui, c'est un peu un conte philosophique. Alors un tout petit peu enrichi, donc un peu romanesque, mais c'est vrai que
avec de l'humour.
La trame et puis un peu plus. Oui, mais c'est rigolo aussi Voltaire. Donc là, de ce point de vue.
Vous écrivez justement dans ce livre, vous parlez des philosophes d'aujourd'hui, vous les appelez d'ailleurs les philosophaillons parisiens maigrichons, donc ça c'est pas des clients pour vous Manon, n'étaient que des petits marquis fatigués pour qui la vérité se résumait à une belle métaphore et beaucoup d'érudition, ils se foutaient pas mal du réel. Alors attention, c'est ma question philosophique, vous pensez que c'est au romancier de prendre en charge le réel? Ah ça rigole pas le 31 décembre sur Radio Campus, hein. Ici on a les apéros, on boit du bon vin...
Non, pas nécessairement. Ça peut être aussi au philosophe. D'ailleurs, il y a un personnage quand même de philosophe dans ce roman qui choisit de faire sa révolution culturelle et d'aller au champ, s'enterrer dans la Douvre pour se
régénérer.
Se régénérer. Alors, je suis pas sûr qu'il y réussisse totalement, mais enfin, clairement, il rompt, quoi. Et il se trouve que moi, j'ai été prof de philo et c'est vrai que fréquentant pas mal les universités. Parisienne, j'ai trouvé que, en effet, soit on avait des gens très sérieux mais qui faisaient de l'érudition de la pure histoire de la philosophie, donc qui font juste vous dire Platon a dit que, Kant a dit que, etc. Mais enfin, ça ne nous apporte pas grand-chose. Puis après, il y a des gens qui font un peu des exercices de style. Donc, des trucs de dandy, mais ça ne prête pas non plus beaucoup à conséquence, quoi. Donc, je voyais une forme d'aporie dans cette pratique-là de la philosophie.
Vous avez fréquenté de près le milieu politique. Qu'est-ce que vous avez contre les conseillers en communication? Parce que le vote est particulièrement gratiné. Je ne vais pas vous en vouloir. Mais il est quand même veule. C'est un traître. Il retourne toujours sa veste du bon côté jusqu'à la fin.
Oui, bah, effectivement. Et d'ailleurs, même si c'est un personnage secondaire, et c'est un truc qui s'appelle Jean-Pierre Barthes.
On n'a pas envie d'être son ami, hein, franchement.
Voilà, c'est le vrai gagnant du livre. Et je pense que... Alors moi, je connais des conseillers en communication qui sont tout à fait bien. Et je crois que la communication, c'est quelque chose d'utile. Mais on est maintenant dans un univers, dans un monde politique qui tourne à vide et dans lequel la communication joue un rôle central et où il n'y a plus rien à communiquer. Et donc finalement, celui qui gagne, c'est le communicant parce qu'il n'y a rien derrière lui.
Vous pensez vraiment que nos adversaires valent toujours mieux que ce à quoi notre haine les réduit?
J'aime beaucoup cette phrase.
Oui, je le pense. Parce que, en fait, une des choses dans le livre, c'est qu'il y a des personnages qui sont très marqués, avec des affrontements un peu manichéens. Il y a plutôt une femme, parce qu'on n'a pas parlé, mais l'héroïne est une femme qui s'appelle Barbara, qui prend la tête de la révolte et qui est le personnage plutôt solaire, qui est une ex-préfète, qui est un personnage plutôt solaire et spontané, etc. Et puis face à
qui arrive à créer quelque chose de fort avec le peuple.
Voilà, elle aime les gens, ce qui est un truc qu'on a du mal à comprendre de l'autre côté du périphérique, enfin je veux dire à l'intérieur du périphérique parfois. Et donc face à elle, elle a ce Claude, et à un moment qui est un donc technocrate.
Claude qui est le technocrate absolu.
Voilà, qui est un type assez odieux apparemment, qui incarne la tradition de l'État français, mais jusqu'à la caricature et avec le côté le plus odieux, quoi. C'est ouais, Nietzsche qui disait le l'État est le plus froid des monstres froids. Lui, il incarne bien ça. Et donc à la fin, Barbara croise ce Claude qu'elle n'avait jamais vu en vrai, et finalement elle le trouve mieux qu'à la télé. Elle se prend presque d'une sorte de tendresse, et voilà. Et je crois que ça rend la relation tout à coup à la fin un peu plus complexe, subtile qu'elle ne paraissait au départ.
Votre roman est aussi une réflexion sur le pouvoir, sa conquête et surtout comment on le conserve. Vous dites d'un personnage qui ne jouit pas du pouvoir, pardon, mais de l'obéissance qu'il suscite, par exemple. Et puis, vous dites aussi que le pouvoir meurt d'être prévisible. Est-ce que vous le pensez vraiment? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez au président de la République qui va prendre la parole dans à peu près une demi-heure? Pour être imprévisible ce soir, il faut des langues de belle-mère à l'Élysée, il faut une ambiance plus détendue.
Des belles-mères?
C'est non, des langues de belles-mères, les trucs qu'on lance au 31 décembre. Genre une ambiance un peu serpentin.
Il faut surprendre, mais enfin, il faut rester prudent en même temps. Là, j'avoue que j'aimerais pas être à sa place, hein, donc vous me stressez là. Donc, rien que d'y penser.
Je vous redonne des pâtes, alors je vous resserre des pâtes.
Oui. Voilà des pâtes au citron là, avec la petite jus de sauce là.
Oui, et on va lui amener un verre de vin de Loire. Après la locution.
Si par moment l'instant présent est en sommeil, demande-toi si au loin des tours s'effondrent sur les plaines. Je sais pourtant qu'au fond le soir te semble terne, qu'un lourd cerceau d'argent tout remuant roule sur tes ailes. Les premiers matins pour tout guider, j'ai vu dans tes mains la mémoire, le temps qui vient. Les premiers matins pour tout guider, j'ai vu dans tes mains la promesse du jour. Si par moment le présent est contaminé par la peur du demain et le lourd fardeau du passé, j'ai vu pourtant au crépuscule la terre qui tremble.
c'était Jaune en sommeil, un extrait de son premier EP dont vous allez nous redonner le titre parce que je ne retrouve plus mes feuilles.
La promesse.
C'est ça, c'est l'ambiance 31 décembre, c'est le bazar déjà ici. C'est à vous Jaune, j'ai lu dans votre biographie que vous vouliez être enseignant-chercheur.
Ouais, c'est exact. Oui, donc là, je suis intimidé parce que du coup, j'ai un agrégé à côté de moi, donc je ne vais pas trop la ramener, je crois.
Ah, mais si, justement, dans quel domaine ?
J'ai fait médiation culturelle, ensuite j'ai fait un master d'esthétique et j'ai commencé une thèse d'esthétique.
Ah ouais, donc vous aviez déjà été loin.
Ouais.
Vous n'avez pas fait semblant.
Et en fait, voilà, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, hein. C'est difficile hein, quand on arrive là.
Moi non plus, j'ai pas fini ma thèse. Hein, donc,
Moi non plus. Ah.
On peut avoir l'agrégation sans thèse ?
Ouais.
D'accord.
Souvent pas savoir ça.
Et donc du coup, vous êtes devenu artiste, c'est plus simple finalement. C'est une façon de faire une thèse d'esthétique.
Je suis devenu musicien, artiste. Bon, on va pas rentrer dans les débats. Hein, je pense que.
Ouais, on va dire musicien. Simple. Donc du coup, vous promouvez votre propre esthétique aujourd'hui, musicale.
Oui, peut-être, j'espère. Je ne sais pas si je pourrais dire ça. Mais...
Alors, pour commencer, je vais quand même vous demander pourquoi cette couleur jaune. Je vous aurais jamais posé la question il y a un mois, mais maintenant qu'il se passe quelque chose autour du gilet de la même couleur, on s'est dit, là aussi, est-ce qu'il a des dons de préscience ?
Alors, j'ai prévu de faire un duo avec un homme qui s'appellerait Gilles, en fait, c'est pour ça.
Gilet jaune ? Oh là, mon Dieu.
Non, en fait, ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est
pour on n'a rien bu, en vrai. Hein.
Ah, c'est 31 décembre, on rigole, on s'éclate. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur, en fait. Simplement, à un moment, j'étais animateur avec des enfants. Et il y avait des enfants étrangers qui n'arrivaient pas à prononcer mon prénom, Jean, qui m'appelait Jaune à la place de Jean. Et du coup, ils m'ont appelé comme ça. Mais
puisque vous appelez Jean Thévenin, en fait.
Oui, mais oui.
Et donc, comme ils n'arrivaient pas à vous appeler Jean, ils vous appelaient Jaune.
Exactement, tout à fait. Et c'est l'époque où j'ai fait mes premiers morceaux. Donc, je me suis dit, voilà, les enfants ont choisi, ont tranché.
Très bien. Et vous êtes devenu musicien comment ?
Alors, à la base, j'étais batteur. J'ai commencé par je suis rentré dans la musique par la percussion. La batterie. Voilà, je fais de la batterie avec un groupe notamment qui s'appelle François and the Atlas Mountains. Et en fait, j'aimais bien chanter quand même derrière la batterie. J'aime bien chanter de manière générale. J'enregistrais des petites maquettes dans ma chambre ou quoi, en chantant sur mon clavier d'ordinateur. Et puis à un moment, j'ai eu envie de sortir mes morceaux à moi, quoi.
Et juste, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de frustration d'être le batteur derrière celui qui fait le rythme et qui n'a pas le droit de chanter. C'est comme Manon qui tout à l'heure était sous-chef et qui est devenu chef.
C'est ça.
C'est peut-être la même chose, il y a un moment où on a envie de faire sa cuisine.
Peut-être, non, peut-être, c'est vrai. C'est vrai que la batterie, surtout, c'est un instrument où on est beaucoup dans l'accompagnement. On aime bien se mettre au service d'autres personnes, donc c'est vrai que parfois on a envie aussi d'être force de proposition, on va dire.
Oh là là, là on a l'impression d'être dans la Startup Nation, quoi.
Ah bah, il faut s'habituer à son époque, hein, c'est ouais, ça, c'est on ça. Va pas se faire bouffer par les autres.
Hein. Justement, vous avez travaillé pour François de Atlas Montagne, là, sur ce disque-là, lui vient travailler avec vous.
Tout à fait, il a écrit un morceau de texte. Sur un morceau.
Alors, est-ce que vous formez une sorte d'école entre vous ? Vous êtes une petite bande de musiciens ? Vous pensez avoir, peut-être pas une école, mais en tout cas, partager quelques références, quelques convictions ?
Oui, je pense. Enfin, je pense qu'on est avec des musiciens, on va dire, un peu de parisiens qui ne sommes pas forcément, dans les choses très commerciales. Il y a une sorte de solidarité, je pense, d'entraide. Souvent, on se fait écouter nos maquettes entre... plein de musiciens, etc. Et puis on aime bien se proposer des choses. François, parfois, il travaille des maquettes. Je vais lui proposer une petite, petit bout de percussion, de changer la rythmique, etc.
Mais donc, et inversement. Vous partagez les mêmes goûts, les mêmes ambiances, les mêmes musiques ?
Avec François, pas mal, ouais.
Ouais. Vous, par exemple, qui ?
Bah, je sais pas. Dans la chanson, il va y avoir, on va dire, Dominica, Étienne Dao, Philippe Catherine, ouais. Françoise Breu.
Allez-y.
Si je peux me permettre votre voix me fait penser à celle de Alex Baupin un peu.
Ah, bah j'ai joué de la batterie avec Alex Baupin.
Ouais, et mais j'adore Alex Baupin.
D'accord. Ah bah, on m'a jamais dit ça, mais merci.
Ah si, ça me fait beaucoup penser à Alex Baupin.
D'accord.
Et moi, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure en antenne, mais je vous repose. Quand vous parlez, vous avez une voix beaucoup plus forte que quand vous chantez.
C'est alors là, c'est parce que j'ai un petit appareil en fait sur ma gorge là, qui transforme ma voix en direct en fait pour en imposer un peu en fait aux auditeurs.
Non mais en vrai, c'est un choix de sous-chanter. Enfin, je ne sais pas si on peut dire sous-chanter, mais d'avoir une voix adoucie.
Non, c'est pas vraiment un choix conscientisé. Je pense que ça va être un peu inconscient. Je pense que c'est peut-être. Enfin, je ne sais pas. S'il fallait y réfléchir, c'est peut-être parce que quand je chante, j'essaye de convoquer quelque chose peut-être qui a rapport avec l'enfance et du coup, il y a peut-être ce côté-là, je sais pas. Mais non, c'est pas conscient en tout cas.
Quand on écrit, justement, vous écrivez des chansons intimes, celles qu'on a écoutées très intimes, par exemple, est-ce que vous avez pensé au fait que peut-être un jour des gens danseraient dessus? C'est quelque chose qui vous angoisse?
Ah non, j'adorerais.
Ce qu'on fait avec vos chansons?
Ah, j'adore. Moi, quand je fais des concerts, quand je vois les personnes qui dansent, ça me stimule, ça.
Non, mais vous avez des textes parfois un peu qui partent d'événements tristes.
Oui, c'est vrai. Bah, le morceau qu'on vient d'écouter, à vrai dire, à la base, je l'ai écrit parce que j'habitais avec mon père qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc à la base, c'était pas très gay.
C'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est savoir que les gens vont danser sur la maladie d'Alzheimer de votre père?
Mais justement, je suis très content. Par exemple, il y a un clip qui a été fait où on voit un couple qui se rencontre, qui s'embrasse, qui danse, et ça me fait très plaisir en fait que le morceau prenne cette interprétation-là. J'ai pas envie de faire de la musique plombante. J'ai pas envie qu'on ait compte de faire. Tant mieux si on sait. En fait, j'ai dit ça, mais je préfère même que les gens ne sachent pas à la base de quoi vient. Enfin, je pense que c'est comme mon camarade à côté qui a écrit son roman. Je pense que parfois, il y a des choses qui viennent de quelque part. On n'a pas forcément envie que personne qui reçoive le destinataire connaisse toutes les arcanes du laboratoire. Mais s'il l'entend différemment, tant mieux.
Jean-Baptiste ?
Ah oui, tout à fait. Enfin,
vous avez des histoires avec des pâtés de pommes de terre, mais vous ne nous le direz pas.
Exactement, ça fait partie de...
Ni ce que vous faisiez dans les granges, dans le pays, dans la Creuse.
Mais voilà. Mais il y a deux types d'artistes. Il y a ceux qui se projettent, et puis il y a l'introspection. Enfin, je suis plutôt du genre à me projeter, et donc à partir de ce qu'on est, à aller chercher ailleurs. Quoi.
Il y a un rapport avec la cuisine ou le vin, justement. Je me demandais finalement, est-ce qu'il y a des choses aussi intimes dans la manière dont on fait un plat, un repas, ou dont on choisit un vin?
Totalement.
C'est pareil. Après, c'est moins lisible que des paroles, ou que d'où vient l'inspiration, etc. Mais moi, il y a plein de trucs qui m'inspirent, et savoir de la manière dont l'ont interprété les gens, chacun son interprétation, quoi.
Moi, je pense que je fais pas le vin, mais je pense que si j'ai plein de vignerons, énormément d'histoires derrière chaque vendange ou chaque partie de l'année qu'on fait le millésime, et je pense que c'est.
Bastien, Manon, est-ce qu'il y a de la musique dans vos restaurants?
Oui.
Ouais.
C'est important aujourd'hui.
C'est primordial. Un bon son, d'ailleurs, c'est primordial. On a tendance parfois à juste foutre une enceinte quelque part et ça donne un son qui est nul parce que la dame à la 12, elle va plus l'entendre que monsieur au bout. Donc, ce que moi, personnellement, j'ai essayé de faire dans l'endroit où je suis, c'est d'avoir un son sur quatre coins du restaurant. Et j'ai trois playlists, moi. J'ai une playlist jazz avec plein de Charlie Parker, de Miles Davis... de John Coltrane pour commencer, et ensuite il y a un peu un côté Buena Vista Social Club, le chef est mexicain et du coup on joue un peu le stéréotype mais qui est marrant, et puis c'est top parce que ça fait danser et puis ça va bien, moi j'aime bien, il y a un super rythme, le rythme pour le service c'est hyper important, et à la fin un peu de old school hip hop Notorious, tout ça, ça fait du bien.
Au-delà de la musique, il y a souvent Moi, je suis souvent gêné par des problèmes d'acoustique dans les restaurants.
Vrai, exactement.
Parce que qu'il y ait de la musique ou pas, parfois, si l'ambiance sonore, il y a un côté brillant, enfin des surfaces réfléchissantes qui font que le son
totalement.
Est agressif.
Et on peut passer un très mauvais moment avec ça. Et là, il y a des. Je sais que toi, par exemple, Manon, dans ton restaurant, vous avez travaillé avec ces solutions-là, mais il y a des solutions au plafond qui sont hyper intéressantes. Et moi, j'ai vraiment vu la différence une fois dans un restaurant où j'ai mangé dans ce restaurant, et en plus, c'était pas très bon. Bref, du coup, je peux pas le citer. Et c'était pas un super moment parce que beaucoup de bruit. Et je suis retourné, en fait, j'étais invité un petit peu plus tard. Quelques mois après, ils avaient mis ces solutions au plafond, et c'était un tout autre repas parce que t'as pas besoin de crier pour parler avec la personne avec qui t'es.
Et vous, Manon, vous avez des playlists ?
J'ai des playlists qui... Enfin, c'est pas à moi, et ça fait un an qu'elles tournent, et j'en ai marre.
C'est pour ça qu'elle écoute les miennes.
Donc, j'ai hâte de les changer, mais il y a
donc vous aurez
très souvent de la musique en cuisine, en tout cas. Et en salle aussi, pour moi, c'est super important aussi.
Ça définit l'identité d'un endroit ? De l'endroit ?
Ça définit vraiment l'identité d'un endroit. Ça donne une ambiance, quoi.
Jaune, vous allez vous
c'est un peu DJ sommelier.
C'est ça.
Mais l'accompagnement. Quoi.
Ce qui est assez drôle, exactement. En fait, c'est que... Je vous coupe encore une fois. C'est que, par exemple, nous, le midi, on a une grosse activité du midi. Et le midi, on n'a pas besoin de mettre de musique, bizarrement.
parce que ça bouillonne en fait. Homer Hermos, le midi, ça bouillonne. Et il y a cette espèce de ronronnement, mais hyper agréable.
Où les beaucoup gens de chats qui viennent déjeuner. Voilà.
Alors, je ne sais pas si les gens ronronnent à cause de la nourriture ou si c'est parce que c'est la seule heure où ils se détendent de la journée. Mais voilà, ce qu'on a remarqué, c'est que le midi, il n'y avait pas besoin de musique. Quoi.
Jaune, vous allez vous produire sur scène ?
Oui.
Ah, il faut suivre.
Tout à fait. À Paris. Alors à Paris, puisqu'on est sur Radio Campus Paris, la release partie du disque, donc le disque qui sort le 18 janvier, et on est en train d'organiser la soirée de sortie qui aura lieu soit le 6 février, soit le 8 février au Hasard Ludique. Je ne sais pas si vous voyez cette nouvelle salle qui est très bien, qui est vers Porte de Saint-Ouen.
Que faisaient nos chevaux sauvages et comment se passait leur temps? Dans leur enclos, chevaux bien sages, mais l'impatience du pur sang. Comment s'est ouverte la cage sur ces deux insolents? La plaine s'est faite grand large, ils ont couru droit devant. C'était un jour de grand mistral, comme on n'en connaît pas tant. Fait pour la danse du cheval, le pas de deux des inconscients. Là-bas les gens ont cru voir de son tort plein de temps. Se rouler sur le sable noir, l'écume frisait à leurs dents. Ils sont passés comme un mirage, à vivre vite, à s'aimer loin. Les beaux chevaux de passage, au vent libre et sans lendemain. Épuisés nos chevaux sauvages, à l'ombre du soleil brûlant, ont reposé leur corps en nage, soudés en deux cuillères d'argent. C'était un jour de grand mistral, comme on n'en connaît pas tant. La plaine s'est faite grand large, ils ont couru droit devant. Que faisaient nos chevaux sauvages? Comment se passait leur temps? Dans leur enclos, chevaux bien sages, mais l'impatience du pur sang.
C'était une des plus belles chansons de 2018, Gilles Caplan, Chevaux sauvages.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Bientôt, on va retrouver Emmanuel Macron pour son allocution de bonne année. Nous sommes toujours le 31 décembre et il est presque 20h. Autour de nous, Manon Fleury, cuisinière, Jean-Baptiste de Fromont, écrivain, le musicien Jean Thévenin ou Jaune et Bastien Filin, sommelier. Bastien, alors vous, comment vous êtes devenu sommelier ?
Je pense qu'en fait, à la base, je voulais être cuisinier et ma mère était chef cuisinière et du coup, elle m'a un peu transmis tout ça. Et après quelques stages et tout ça, j'ai vite vu que c'était plus un hobby qu'autre chose.
Cuisinier ou...
Cuisinier, ouais.
Il n'ose pas dire la vérité. Non, c'est la vérité, Bastien.
Non, bah c'est la vérité. C'est quoi pour toi la vérité?
Oh là là.
Alors apparemment,
c'était très trop dur.
Tu rigoles ou quoi? Non, pas du tout. C'était un peu trop facile d'ailleurs les horaires. Et en fait, je voulais rester absolument dans ce métier de bouche. Moi, je trouvais ça vivant, je trouvais ça magnifique. Et par la force des choses, je suis parti à je suis parisien, mais je suis parti à Lyon faire ce qui s'appelle une mention complémentaire semellerie. Et j'ai eu un encadrement super, un prof qui est meilleur ouvrier de France sommelier, qui nous a accompagnés dans des vignobles à travers la France. Après, autour de Lyon, la première année, donc c'est-à-dire Beaujolais, Jura, Savoie, le Rhône aussi. Et du coup, la rencontre avec les vignerons, avec les hommes, avec ces parties de la France qu'on n'a pas encore trop l'habitude de visiter, ouais, parfois un peu reculées, et où il y a des choses extraordinaires. Moi, ça m'a tout de suite beaucoup animé, et au-delà de ça, en parallèle plutôt, c'est le travail en entreprise.
Et c'était à quel âge? Parce que moi, j'ai
18 ans.
Ouais. Parce qu'en général, ces gens n'aiment pas trop le vin, si.
Bon, ça dépend. Il faut demander à ceux qui nous écoutent.
Vous aviez peut-être une éducation.
Hein. C'est ça, ouais, votre Red Bull. Ouais. On évite le Red Bull absolument, d'ailleurs, je fais passer le message.
Vous aviez une éducation peut-être des viticulteurs, des gens qui aimaient boire autour de vous. Votre mère était
ouais,
chef.
Ouais, ouais, totalement. Hein, ouais. Ouais.
Bah, vous avez toujours
père,
été sensible à ça.
Mon père a toujours amené plein de bouteilles de là où il allait en reportage. Mon frère aussi, un de mes frères aînés, qui m'a pas mal entraîné dans ce milieu. Et du coup, ouais, c'est... Je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, mais
j'espère.
Depuis tout petit, j'aurais plus le droit d'en boire comme Obélix sinon. Mais depuis tout petit, je suis quand même assez intéressé.
Alors, comme là, on a des auditeurs qui préparent peut-être leur viande, est-ce que c'est toujours vrai qu'il faut boire du blanc avec le poisson, du rouge avec la viande?
Non.
Et du pastis avec tout, comme disent les alcooliques.
C'est ça, le pastis, tout est un. Mais non, par exemple, là, on parlait des accords très classiques. Mon Dieu, oubliez le sauterne avec le foie gras. Oubliez. Enfin, c'est comme les recettes de Porto et de melon, quoi. Enfin, il y a un moment, ça va. Jambon de Parme et melon, on évite quand même. Ça, c'est très.
Non, j'ai découvert marron. C'était quoi? Crème de marron et clémentine.
Ça va pas chercher quand même bien loin.
Ouais, mais bon, ça fait.
Moi, j'ai pas. Je vous inviterai pas à manger, Manuel.
Tout le monde me dit ça, j'en ai marre.
Étant donné que c'est 31, on peut peut-être demander aussi les petits conseils pour ne pas avoir. Pas être trop mal le lendemain, quoi.
Ouais, exactement.
On sent le vécu.
Ouais, totalement. Enfin, bah, c'est vrai qu'en général, mais oui, totalement. Le premier, c'est la journée de l'année qu'on voit pas trop en général, parce que soit on n'a pas beaucoup dormi, soit on a très mal au crâne. Éviter d'avoir mal au crâne, c'est éviter les mélanges d'alcool. Pas forcément de couleur, hein. C'est pas grave si on fait blanc, rouge.
Et un
rouge,
non,
ouais, ça c'est le proverbe bourguignon, mais peu importe, non. Franchement. Et forcément, on va pas boire des rouges hyper tanniques avant un blanc un peu plus sur la fraîcheur. Ça peut déséquilibrer tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas un problème si on mélange certaines couleurs. Le problème, c'est de mélanger trop d'alcool. Pro de différents alcools, c'est-à-dire de rhum.
Ça, je confirme. J'ai jamais été aussi malade qu'en mélangeant trop d'alcool.
Ouais, mais oui, c'est ça. Soit on reste sur un alcool, on se dit, allez, soirée mescal. Bon, moi, personnellement, soirée mescal, pas tous les jours. Mais, mais voilà, faut
être en bonne santé. Quoi.
Ouais, c'est ça. On peut forcément commencer au vin et après finir avec un alcool, mais éviter les cocktails TGV là, avec tequila, gin, vodka tendu quand même.
Dans le restaurant, vous proposez des vins élevés sans glyphosate. C'est aujourd'hui une demande de la clientèle ou c'est parce que c'est les vins que vous préférez, vous?
Aujourd'hui, dans le 11e, c'est une certaine demande. C'est une vague, une mode qui est quand même intéressante. Après, voilà, ça entraîne des choses compliquées, mais c'est ultra intéressant. Je parlais du mal de crâne. Aujourd'hui, ce soir plutôt, on essaye de boire des vins sans trop de sulfites, sans trop de chimie. Je parlais de la grande surface. Malheureusement, c'est vrai qu'on trouve très peu en tout cas de vins sans trop de chimie en grande surface. Donc il y a une application qui est super, qui s'appelle Raisin. Raisin, ça se télécharge sur Android ou Apple. Voilà. Et c'est une application qui va... sur une carte, te géolocaliser et te dire où est-ce que tu peux acheter, dans la boutique juste à côté de chez toi ou pas, des vins naturels, donc de boutique ou de restaurant. Franchement, faites-le, on peut encore l'utiliser jusqu'à minuit. Il y a des magasins ouverts tard. Et le but, c'est de boire quand même des vins avec... un vin sans sulfite, ça n'existe pas, parce que le vin produit lui-même du soufre. Mais des vins sans sulfite ajouté, ça existe. Et quand c'est bien fait, il y en a qui le font très bien. Sans déviance, c'est très intéressant gustativement et surtout pour la santé et pour le respect de la nature.
À Paris, vous avez aussi une clientèle internationale. Quand vous faites la carte des vins, vous y pensez que faut du vin pour les Américains.
Il faut du vin pour les Américains, mais faut pas se prostituer non plus, quoi. Faut pas leur dire ok, les Américains, ils aiment que ça. D'ailleurs, c'est très généraliste souvent. Les Américains, on va justement leur faire comprendre qu'il y a des choses très naturelles qui se font dans d'autres pays et que de toute façon, ça arrive dans le leur aussi. Il y a des choses super maintenant qui se font là-bas. Mais voilà, on ne va pas forcément acheter tel vin pour telle catégorie de personnes. mais plus rapporter quelque chose d'identitaire au restaurant et de se dire bah, au moins quand tu viendras chez moi, tu auras peut-être appris quelque chose.
On n'a plus beaucoup de temps, on a peut-être des auditeurs qui, comme moi, ne fêtent jamais le 31 décembre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain, Manon ? Un petit repas sympa pour le 1er janvier ? Qu'est-ce que... Encore des pâtes ?
Pour le 1er janvier, entre amis, moi j'avais pensé à un pot-au-feu. Parce que d'une, j'adore les lendemains de fête boire des bouillons. Je trouve qu'en fait, c'est rien de mieux pour se remettre d'une gueule de bois qu'un bon bouillon.
Ah, mais ça, il faut l'avoir déjà préparé.
Comment ?
Si on a encore le temps de préparer un pot-au-feu pour demain ?
Mais oui, bien sûr, on peut préparer un pot-au-feu pour demain. vous voulez quelque chose de rapide ?
Non, mais moi, sinon, ça va bien, un pot-au-feu.
Un pot-au-feu, ça vous va ?
Oui.
Donc, un pot-au-feu, quoi.
Avec plein de bons légumes de
Avec
saison.
Avec plein de bons légumes. Si... On peut même squeezer la viande, si vous voulez. On peut faire qu'un pot-au-feu de légumes.
C'est quelle partie de la viande, du coup, pour un pot-au-feu ?
Bien sûr, un bouillon de légumes. On se fait un bouillon de légumes et on met quelques... Alors, moi, j'avais pensé à ça et j'avais pensé... Je pensais souvent à un... Donc, si on fait un bouillon de légumes, on se met quelques pâtes encore dedans. Et c'est pas mal parce que les pâtes... j'avais pensé à des petites pâtes langue d'oiseau, vous savez, comme les petites pâtes... je vais souvent en Italie, en fait, je me rendais pas compte, je vais souvent en Italie. Qui sont ce qu'on appelle les petites pâtes langue d'oiseau, dans l'esprit d'un minestrone, quoi.
Et on boit ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut boire légère ?
On peut faire des super jus de fruits si on est un peu trop, si on est un peu trop mal au crâne. Mais non, on peut boire, on peut continuer de boire. Peut-être éviter là aussi l'acidité parce que les lendemains de soirée c'est compliqué. Chercher des rouges un peu plus réconfortants avec un petit peu de densité.
On les trouve où alors ces rouges réconfortants ?
On les trouve dans le sud de la France, on les trouve en Italie, mais dans le sud de la France, la vallée du Rhône du Sud a longtemps fait des vins dans le Gard notamment, des vins très puissants. Maintenant, il y a des choses super qui se font. Les frères Soulier, deux frères qui sont installés dans le Gard à côté de Nîmes, qui font des rouges avec du volume, de la densité, mais beaucoup de matière, mais on ne va pas chercher les tanins et l'extraction. Ça reste élégant et ça reste juteux.
Maintenant, à chaque fois que vous nous proposez qu'un plat, moi j'ai été élevé dans une famille où quand même on a entrée, plat, dessert, et à chaque fois vous ne faites qu'un plat.
Donc vous,
une petite entrée, oui.
Une petite entrée, un petit poireau vinaigrette.
Et après un bouillon de légumes.
Bah ouais,
c'est super.
C'est bien.
Détox.
Ah ouais, c'est détox le 1er janvier.
Vous vouliez quelque chose de plus gourmand ?
Au dessert, vas-y, lâche-toi.
Et pour le dessert. Non, mais ce que vous voulez, moi, c'est... je suis invité.
Mon
choix
à la crème, non ?
Ça, vous voulez quelque chose de plus coquin, c'est ça ?
Non, mais c'est pas grave. Vous savez ce que vous allez manger, vous ? Vous avez une idée les uns des autres, là, autour ? Vous êtes du genre à gros mangeur, petit mangeur ?
Non, des huîtres, c'est pas mal.
Ouais.
La préparation, l'iode, quand même. Hein.
La soirée avec l'homme qui ouvre les huîtres.
Ouais, c'est ça. C'est...
Ouais, je les fais ouvrir.
Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise bien, parce que moi, je suis déjà retrouvé à ouvrir des huîtres, et quand c'est pas bien faire, c'est quand même...
On
passe sa soirée à ça, quoi.
Ou sinon, on mange un peu de calcaire.
Mais les huîtres, c'est une bonne idée et en fait, ça me fait penser. Ouais, c'est une super bonne idée. Une huître chaude, c'est super bon. Ça peut être servi avec un sabayon qu'on fait.
Petite crème donc.
Petite sabayon en champagne, ouais, c'est voilà. Super bon. Et sinon, je pensais aussi, c'est une recette que je fais souvent en mermoz. C'est des coques, des petites coques qu'on ouvre dans une eau très salée. Si on est à côté de la mer, on a de la chance d'aller passer le réveillon à côté de la mer. On va prendre un petit seau d'eau de mer, on va avec son petit seau en plastique, on va chercher de l'eau de mer et on ouvre nos coques dans de l'eau de mer. Sinon, on sale très fortement notre eau et on ouvre nos coques dans une eau très bouillante. Et dès qu'elles s'ouvrent, on peut les retirer et on les mange comme ça, tout simple.
Merci beaucoup, je crois que c'est déjà l'heure. Merci à vous quatre d'être venus, Jean-Baptiste de Froment. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous publiez dans quelques jours... État de nature. Manon Fleury, on peut vous retrouver tous les jours ou presque dans votre restaurant au Mermoz.
Du lundi au vendredi.
C'est du lundi au vendredi. Pastin Filin, vous, on vous retrouve au Saint-Sébastien, donc à deux pas d'ici, où vous avez occupé de la carte des vins. Enfin, Jaune ou Jean Thévenin sortira le 18 janvier votre premier pied, La Promesse. Merci à vous quatre
Merci
d'être
beaucoup.
Venus.
Merci.
Bonne fin
Merci.
D'année, surtout, et surtout à vous quatre, une très belle année 2019.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter La Relève, épisode 7 de la saison 3, crossover avec la matinale de 19h. L'émission était proposée et présentée par Christophe à la réalisation, celui à qui on souhaite une année 2019 encore pleine de succès, l'indispensable Antonin. L'émission sera prochainement disponible sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève, et bientôt sur notre page Facebook. Maintenant, tout le monde se tait pour écouter le président de la République, Emmanuel Macron. À moins que vous ne préfériez, on ne pourra pas vraiment vous en vouloir. Retrouvez tout de suite Pièces Détachées sur votre radio préférée.
Merci à tous, amusez-vous bien, soyez fous et soyez prudents avec modération. La Relève sera de retour le 14 janvier à 14h et on sera en 2019.